Radio Prague, les informations. Bonjour, le social Jan Hamáček a été élu nouveau président de la Chambre des députés. La République tchèque souhaite que l'Union européenne ne ferme pas la porte à l'Ukraine si celle-ci refuse de signer l'accord d'association. Et puis enfin, les syndicats des mineurs appellent le gouvernement à supprimer les limites des zones d'extraction de lignite en Bohême du Nord. Jan Hamáček, membre du Parti social-démocrate, a été élu président de la Chambre des députés ce mercredi. Âgé de 35 ans et déjà vice-président de la Chambre basse avant la dissolution de celle-ci en août dernier, Jan Hamáček a reçu le soutien de 195 des 198 députés présents. Unique candidat et représentant du parti vainqueur des élections législatives des 25 et 26 octobre dernier, Jan Hamáček remplacera Miroslava Němcová du Parti civique démocrate, ODS, dans la Constitution tchèque. Rappelons-le, le président de la Chambre des députés est le troisième personnage le plus important de l'État. L'Union européenne devrait être plus souple dans ses négociations avec l'Ukraine et ne devrait pas lui fermer la porte en raison de sa décision de renoncer à signer l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est en somme ce qu'a déclaré le Premier ministre tchèque Jiří Rusnok au sénateur ce mercredi, alors que se tiendra un sommet européen convoqué à Vilnius en Lituanie ce jeudi. Cet accord très important pour la géopolitique européenne devait être officialisé à cette occasion. La Russie a toutefois demandé à Kiev de suspendre cet accord avec l'Union européenne. Mardi, le président ukrainien Viktor Yanukovych a fait savoir qu'il attendra de meilleures conditions pour examiner une éventuelle signature. Je pense que les négociations n'auraient pas dû dépendre autant du sort de Madame l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, a également expliqué le chef du gouvernement tchèque. Toujours selon lui, Bruxelles en a proposé trop peu à l'Ukraine et pas seulement en ce qui concerne l'aide financière. Les syndicats miniers appellent le gouvernement à supprimer le plus rapidement possible les limites empêchant l'exploitation de lignite dans la région de Most, c'est en Bohême du Nord. C'est ce qu'ils ont fait savoir lors d'une conférence de presse ce mercredi. Selon les syndicats, un statu quo pourrait entraîner la suppression d'environ 8000 emplois. Récemment, le Premier ministre Jiří Rusnok et le président de la République Miloš Zeman se sont également prononcés en faveur de l'abolition de ces limites. Celles-ci, rappelons-le, ont été fixées en 1991 par le gouvernement tchécoslovaque, et ce, afin de sauvegarder une partie du paysage dans les régions où se trouvent des gisements de lignite. Cet arrêt protège également les communes menacées d'être rasées pour laisser place à des mines à ciel ouvert. Le Premier ministre slovaque Robert Fico sera en visite à Prague ce jeudi afin de signer l'accord de reconnaissance réciproque des diplômes de l'enseignement supérieur entre la Slovaquie et la République tchèque. À cette occasion, Robert Fico sera également reçu pour un déjeuner par son homologue Jiří Rusnok, d'où il se rendra ensuite à la faculté de droit de l'université Charles pour participer à un débat avec les étudiants. La dernière visite du chef du gouvernement slovaque en République tchèque remontée à mai dernier et au Forum européen de l'énergie nucléaire. Le réalisateur Jiří Menzel, acteur majeur du cinéma de la nouvelle vague tchèque des années 1960, est à Varsovie pour recevoir un prix récompensant l'ensemble de son œuvre. Ce sont les organisateurs du Festival international du film indépendant Grand Off qui ont décidé de lui rendre cet honneur. Jiří Menzel vient juste de rentrer d'Inde, où il a reçu une récompense similaire dans le cadre du Festival international du film de la ville de Goa. La directrice du Centre tchèque de Varsovie a annoncé cette information en dévoilant les détails de la semaine du film tchèque, une semaine qui doit se tenir dans la capitale polonaise du 1er au 4 décembre prochain, avec notamment la projection de 8 longs-métrages. On passe au sport et au football. À l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le Viktoria Plzeň, qui est toujours en quête de ses premiers points dans la compétition, affronte Manchester City ce mercredi soir sur le sol anglais. Rappelons qu'au match aller, les joueurs de Bohème de l'Ouest s'étaient inclinés 3-0. Dans l'autre match du groupe D, le Bayern de Munich se déplace à Moscou où il affrontera le CSKA. On termine avec un mot de météo. C'est un temps particulièrement gris, parfois pluvieux, parfois neigeux, qui règne sur une grande partie du territoire ce jeudi. Cela n'empêche pas, et bien heureusement, les Rennais dont c'est la fête et tous leurs compatriotes tchèques de sortir de chez eux. Attention cependant aux glissades en sortant le matin et de bonne humeur. Les températures varient entre 1 et 4 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qui a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, Pierre Maignan pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour amis auditeurs, bonjour amis auditrices et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au programme de ce mercredi, au soleil, les négociations en vue de former une coalition gouvernementale se poursuivent et se compliquent entre sociaux-démocrates, représentants du mouvement Anno et chrétiens-démocrates. Ces derniers ont ainsi annoncé qu'ils refuseraient certainement d'intégrer un gouvernement dont le programme comprendrait l'abrogation de la loi de lustration qui empêche tout ancien collaborateur du régime communiste d'intégrer la fonction publique. Après cet épisode politique proposé par Denisa Tomanova, Agnès Joyot nous détendra avec un peu de danse contemporaine. Le projet Danse dans la galerie ambitionne de rapprocher le public de cet art. Enfin, Mercredi oblige, c'est l'histoire qui sera à l'honneur avec Yaroslava Gisubelova qui s'est intéressée pour vous à une magnifique collection d'art aristocratique français. Bonne écoute à tous et à toutes. En début de semaine, les communistes ont proposé l'abrogation de la loi dite de lustration. Adoptée en 1991 par l'Assemblée fédérale tchécoslovaque, cette loi interdit à toute personne fichée comme agent ou collaborateur de la STB, la police secrète communiste, entre 1948 et 1989, l'accès à une fonction au sein du gouvernement, du pouvoir judiciaire, de la police, de l'armée, des services de renseignement ou encore de la banque centrale. Les sociaux-démocrates, HSSD, et l'action des citoyens mécontents, Anno du milliardaire Andrei Babich, n'y sont pas opposés, mais le troisième parti susceptible d'intégrer la coalition gouvernementale en négociation, le parti chrétien démocrate, y est lui hostile. Denisa Tomanova.
Toute personne voulant accéder à des postes de responsabilité publique doit posséder un certificat de lustration délivré par le ministère de l'Intérieur. Or, le nom d'Andrei Babich, le président d'Anno, la deuxième formation politique la plus importante du pays, apparaît aux côtés du pseudonyme de Buresh dans des registres de la police communiste. L'entrepreneur réfute résolument toute collaboration avec les services de renseignement communistes, la STB, et il a même assigné en justice l'Institut de la mémoire nationale de Bratislava, qui a été le premier à révéler l'existence de son nom dans les dossiers de la police. Si pour certains, le dossier d'Andrei Babich est falsifié, pour d'autres, une telle falsification est impensable dans la mesure où des mécanismes de contrôle à l'époque l'auraient rendu impossible. L'homme fort du mouvement Anno a livré son opinion lors d'un entretien diffusé ce lundi à la télévision tchèque.
Je crois qu'il n'est pas fondamental pour ma carrière politique de savoir si quelqu'un a enquêté sur mon cas il y a 30 ans. Nous devrions enfin réussir à gérer notre passé, car si nous continuons à nous surveiller en permanence, c'est que quelque chose ne tourne pas rond.
La proposition des communistes d'abroger la loi dite de lustration a été étonnamment soutenue par le président des sociaux-démocrates Bohuslav Sobotka. Et ce peut-être pour ouvrir la porte du gouvernement à Andrei Babich, intéressé par le ministère des Finances, mais qui, pour les raisons précitées, ne possède pas de certificat de lustration. Selon Bohuslav Sobotka, la question de maintenir ou non la loi de lustration, jusqu'alors opportune, est pertinente 24 ans après la révolution de velours. Mais ce mardi soir, Pavel Bielobradek, le président des chrétiens démocrates, lesquels négocient leur participation à la future coalition avec les sociaux-démocrates et le mouvement Anno, a marqué clairement son opposition à toute révision de cette législation. Pavel Bielobradek.
Nous pourrions certainement discuter de l'introduction de l'abrogation de la loi de lustration dans l'accord de coalition. Mais pour ma part, je n'imagine pas que nous puissions faire partie d'un gouvernement dont l'accord de coalition prévoit l'abrogation de la loi de lustration. Cela ne dépend pas de moi, ce sont les organes compétents de notre parti qui doivent se prononcer, mais je suppose qu'il s'agirait là d'une condition inacceptable.
Schválit naše orgány, ale předpokládám, že to by byla nepřijatelná podmínka. Le processus de formation de la coalition tripartite semble donc singulièrement se compliquer. Dans le cas où l'abrogation de la loi de lustration devrait être incluse dans l'accord de coalition, les chrétiens démocrates n'intégreraient probablement pas le gouvernement. Pavel Bělobrádek a justifié cette position.
Nous sommes persuadés que cette loi remplit une fonction essentielle. Il n'y a pas de raison de la modifier. Seulement 25 ans après le changement de régime, on trouve toujours des personnes qui se sont compromises avec l'ancien régime de manière considérable. Et nous pensons que ces personnes ne devraient pas occuper de postes importants.
Plusieurs autres hommes politiques, issus de camps politiques différents, rejoignent le raisonnement de Pavel Bělobrádek. Pour le vice-président du Sénat, Přemysl Sobotka de ODS, la fonction publique ne devrait pas être ouverte à quiconque lié avec le régime répressif. Selon l'ancien ministre des Finances de Top 09, Miroslav Kalousek, je cite, « Même en 1969, en Allemagne de l'Ouest, on n'aurait pas imaginé que d'anciens agents de la Gestapo soient désignés à des postes dans la haute fonction publique. » Fin de citation. La décision de la Cour concernant la supposée collaboration d'Andrei Babiš devrait quant à elle être connue au mois de janvier.
La danse est un art qui a tellement à dire, mais son drame, qui fait aussi toute sa puissance, c'est que la danse parle en silence. Comment donc atteindre ceux qui n'y sont pas initiés? En allant les chercher par surprise hors des scènes conventionnelles et en interrompant leur course folle par des instants de grâce. C'est l'ambition du projet Tanets Gallery, danse dans la galerie, né de la collaboration entre la Galerie Nationale de Prague, la Galerie Vaniek à Brno et le centre chorégraphique Sesta. Au cœur des activités qui composent ce projet, la danseuse britannique d'origine tchèque, Andrea Miltnerova, offrira ces jeudis, vendredis et samedis, dans une enceinte de la Galerie Nationale, une performance qui s'annonce majestueuse. Marie Kinski, directrice du centre Sesta, présente au micro d'Agnès Joyot les intentions fortes de cet événement.
Durant 3 jours, les visiteurs des collections d'art moderne de la Galerie Nationale de Prague seront interpellés par un spectacle peu commun. La célèbre danseuse britannique d'origine tchèque, Andrea Miltnerova, exécutera un solo intitulé Flashback et se produira comme par enchantement dans le cadre ordinaire du musée. Marie Kinski précise.
Ça va se passer dans ce qu'on appelle le Malan Varana, donc la petite cour, qui est en fait un espace absolument dantesque, qui se trouve dans le musée d'art moderne, donc la partie d'art moderne de la Galerie Nationale, qui s'appelle le Veletržní Palác. L'espace est immense, mais c'est un espace avec lequel il est possible de dialoguer. C'est un espace très particulier, qui a vraiment un caractère.
Le dialogue, c'est bien ce qui est au cœur de cet événement exceptionnel. Dialogue d'abord entre les différents champs artistiques que représentent d'un côté la danse, de l'autre les arts modernes exposés à la Galerie Nationale et enfin l'immense architecture qui les abrite. Dialogue aussi entre l'art et le visiteur, qu'il soit averti, amateur ou tout simplement curieux. Dialogue intérieur, enfin, ce qu'offre la danse généreusement et sincèrement, et ce qu'Andrea Miltnerova cherche à transmettre avec Flashback. Marie Kinski.
Si nous avons voulu travailler avec Andrea Miltnerova, c'est parce qu'elle est entrée dans un cycle de travail pour elle-même, qui est dans un dialogue entre elle-même et elle-même, entre son passé de danseuse et sa réalité de danseuse d'aujourd'hui, entre les domaines d'art qu'elle a touchés, et l'art contemporain. D'autre part, nous avons choisi de donner cette possibilité à une danseuse qui a énormément de présence, qui ne veut pas dire que dans le travail qu'elle va faire, elle va dégager de la force, mais elle va vraiment pouvoir, par ses qualités personnelles, habiter cet espace avec aussi sa fragilité. Donc communiquer avec ce qu'elle est, avec cet espace, et c'est ce qui est intéressant dans le projet.
Il s'agit bien également de communiquer avec le public plutôt que de le conquérir. Communiquer ou mieux encore converser, car pour Marie Kinski, le motif fondamental du projet Danse dans la galerie se situe justement dans la participation active des visiteurs. On l'écoute.
Alors Tanas Galerie, c'est un projet que nous avons démarré l'année dernière en collaboration avec la Galerie Nationale. C'est en fait la Galerie Nationale qui nous a demandé de participer. L'objectif étant, de la part de la Galerie nationale, de rendre plus vivant un espace d'exposition, et d'autre part, de donner accès à la danse à des gens qui normalement ne vont pas avoir des spectacles de danse. Et le troisième point, c'est pour les spectateurs de les rendre actifs dans leur visite d'un musée ou dans leur vision d'un spectacle de danse. À partir du moment où il y a cette relation, les gens sont obligés de s'impliquer différemment.
Nous avons ainsi demandé à Marie Kinski, elle-même danseuse professionnelle, de nous donner quelques clés pour mieux saisir les beautés mystérieuses de la danse contemporaine.
Il y a quelque chose qui est absolument commun à tous les domaines de l'art contemporain, et qui est le fait d'oublier le concept, hein, même si l'art contemporain est très conceptuel, mais d'oublier le concept, hein, et de se laisser aller à sa sensation et à son ressenti. Donc ça, c'est accessible absolument à tout le monde. Ne pas avoir peur de ne pas avoir de connaissances dans le domaine, simplement avoir sa propre expérience, son propre imaginaire, et de le laisser travailler avec l'artiste. Et ça ne va pas plus loin.
Avec Flashback, d'inspiration baroque, Danse dans la galerie renoue finalement à la Galerie nationale avec les traditions de cette époque où il n'y avait pas de théâtre officiel, mais où l'on jouait justement dans les lieux publics. Pourvu que les curieux se bousculent ce jeudi, vendredi et samedi au bon endroit. Sans vouloir flétrir la magie d'un spectacle qui se veut spontané, la performance d'Andrea Miltnerova aura lieu à 16h30.
L'art français des collections aristocratiques, tel est le titre d'une exposition inaugurée le 22 novembre dans les écuries impériales du château de Prague. S'inscrivant dans le cadre du projet L'année de la culture française en République tchèque, elle présente des œuvres d'art qui touchent à l'histoire des émigrés nobles français ayant trouvé refuge dans les pays de la couronne de Bohême. Yaroslava Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
Inaugurée symboliquement dans les locaux des écuries impériales du château de Prague, lieu de résidence dans les années 1832-1836 du roi français Charles X, immigré en Bohême suite à la Révolution de Juillet, l'exposition présente la création artistique française depuis l'époque de Louis XIV jusqu'au tournant des 19e-20e siècles. Tableaux, portraits, plastiques, montres, meubles, porcelaines, vêtements, tapisseries, armes et manuscrits. L'exposition est à la fois une excellente leçon d'histoire sur l'installation de la noblesse française en Bohême et en Moravie. On écoute la commissaire Marie Mžikova.
En principe, il y a eu trois occasions ou temps forts de l'installation de familles nobles françaises en Bohême et en Moravie. Il y a tout d'abord la période qui suit la guerre de 30 ans, qui a fait venir notamment des familles lorraines. Les Défours ou la famille noble huguenote traduit de souche. Une nouvelle vague d'émigrés nobles français arrive massivement en Bohême après la prise de la Bastille. Ensuite, ce sont des familles nobles françaises ayant un lien marital avec la Bohême. Ces liens se créent notamment pendant les guerres napoléoniennes et dans le courant du 19e siècle.
Selon certaines sources, il est possible d'identifier près de 90 familles nobles françaises ou francophones installées en Bohême, en Moravie et en Silésie. Les Bucois, venus d'Artois, installés à Rochenberg, les Mansdorf-Puy, une famille de la noblesse lorraine, établie à Boskovice, la famille de la Motte, les comtes de Arbuval-Chamaret, ceux de Choiseul-Daillecourt ou la grande famille aristocratique lorraine des Ficlemont. Parmi elles, la famille Rond occupe une place particulière, comme le raconte Marie Mžikova.
La famille Rohan s'installe en Bohême au début du 19e siècle. En 1820, Charles-Alain Gabriel Rohan rachète le château baroque de Sichrov dans le nord de la Bohême pour en faire une résidence familiale. Issu de la branche des Rohan-Guémené, il remanie Sichrov en style néo-renaissance et néo-gothique selon le modèle du château de Josselin en Bretagne. La maison de Rohan est l'une des plus puissantes familles du duché de Bretagne. À partir du XVIIe siècle, les princes Rohan utilisent le titre des princes étrangers pour souligner leur rang de prince passant juste après les princes du sang. Dans le courant du XIXe siècle, les Rouens ont fait déplacer de France à Sychrov leur collection de portraits, une collection cachée pendant la Révolution française dans le palais Rouen Soubise à Paris. Un total de 240 tableaux.
Couvrant l'ensemble des intérieurs du château de Sychrov, la collection de portraits des membres de la famille Rouen et de souverains français est la plus grande hors de France. L'exposition qui se tient actuellement dans les écuries impériales du château de Prague est la toute première occasion pour la présenter au grand public. Comme l'observe Marie Mjikova, depuis la création de la République tchécoslovaque en 1918, la France a cherché à étudier, à documenter cette collection. Or, la famille Rouen a refusé que des historiens français ne visitent Sychrov, ne pouvant pas oublier les raisons de leur émigration.
En 1830, les Rouen sont les héritiers des biens royaux suite à la mort, peut-être un suicide, du dernier membre de la branche aînée des Bourbons, Louis VI Henri, à condition toutefois de rentrer en France. Ils décident cependant de rester à Sychrov, où ils sont naturalisés. Un des membres de la famille, le prince Camille de Rouen, se voit décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville de Prague pour ses activités à la tête de différentes associations scientifiques.
Des générations de familles nobles françaises ayant un lien marital, territorial ou de sang avec la Bohème ont enrichi leur résidence à Rožmberk, Sychrov, Nové Hrady, Boskovice, Milotice et ailleurs, de tableaux et de bibliothèques. Ils ont aménagé des parcs et introduit le style de vie de l'aristocratie française ainsi que le français en tant que première langue des milieux nobles. C'est ce que souligne Marie Mjikova.
Po 200 Francie ovlivňovala životní styl nejvyšších vrstev.
Deux siècles durant, la France a eu une influence sur le style de vie des milieux aristocratiques. L'exposition est une occasion de présenter des objets d'usage quotidien inspirés de modèles français, dont des terrines en forme de perroquets, d'oiseaux sauvages et de têtes de choux. Fabriqués à l'origine dans les manufactures de faïence de Strasbourg, leur production est ensuite transférée dans la plus ancienne manufacture morave de Holich et fabriquée ici sous la direction de Nicolas Germain de Strasbourg. Le rayonnement de la culture française commence avec l'ère du roi Soleil. Le français est la langue de la noblesse cosmopolite. Toute l'Europe centrale, ainsi que par exemple Saint-Pétersbourg, à l'époque de la capitale de l'Empire russe, subissent l'influence de la culture française. On peut parler de deux siècles d'intérêt des élites pour la culture française.
Les liens artistiques franco-tchèques sont documentés par la création de la portraitiste Elisabeth Vigée-Lebrun. Il aussi émigré en Autriche-Hongrie. D'autres témoignages sont fournis par les tableaux de peintres paysagistes de l'école de Barbizon et ceux de style troubadour qui ont influencé plus d'une génération de peintres tchèques du XIXe siècle. Le portrait de Pauline, princesse de Schwarzenberg, de François-Pascal Simon Gérard, n'est pas méconnu des francophiles. Il a été ramené de France par Karl, prince de Schwarzenberg, ambassadeur de la monarchie autrichienne à Paris, dans son château d'Orlik en Bohême du Sud. Le 1er juillet 1810, le prince organise un bal en l'honneur des fiançailles de Napoléon avec l'archiduchesse autrichienne Marie-Louise. Parmi les invités, il y a la belle-sœur de l'ambassadeur Pauline qui y trouve la mort dans un incendie qui se déclare dans la résidence autrichienne lors du bal. Marie Mjikova nous montre encore un autre portrait ayant un lien avec la Bohème.
Je to kníže Gilles Louis de Rohan, byl to manžel.
Le tableau représente le prince Jules Armand Louis de Rohan, qui était le premier époux de la comtesse Wilhelmina Zahańska, connue grâce au célèbre roman Babichka, grand-mère de Bojena Niemcova. En compensation de leur divorce, la comtesse a offert au prince Louis le palais Rohan dans la rue Karmelitska à Prague, actuel siège du ministère de l'Enseignement.
Karmelitské ulici v Praze, dnešní sídlo ministerstva školství.
Les heures de rang constituent un objet rarissime de l'exposition d'art français. Non, il ne s'agit pas d'une montre, mais d'un manuscrit richement enluminé, exécuté autour de l'an 1500 à Rouen et amené par les Rouens au château de Sikhrov. Depuis la confiscation de leurs biens, conformément au décret Beneš, l'œuvre est conservée à la Bibliothèque nationale de République tchèque. Composé par 4 enlumineurs, le manuscrit commence par un calendrier français suivi des extraits des évangiles et des prières traditionnelles de la liturgie en latin. Un fac-similé complet relié de cuir rouge a été édité à Prague par la fondation Archa 90. Des montres véritables sont également représentées à l'exposition d'art français. On écoute Marie Mžikova.
Certains objets proviennent de dons offerts par l'empereur Napoléon Ier aux diplomates. Parmi eux, un grand ami de Napoléon, puis son adversaire, le chancelier Clément Venceslas de Metternich. La splendide montre Athéna, exposée ici, est à mettre en parallèle avec le même objet mondialement célèbre qui se trouve à la Maison Blanche à Washington. On ignore qu'un autre exemplaire de cette montre fait partie des collections de la famille Metternich au château de Kinschwart.
En plus de cette montre, le château de Kinschwart en Bohême occidentale abrite des objets uniques ramenés de sa mission diplomatique à Paris par Richard Metternich et ceux offerts à ce dernier par Marie-Alexandrine Dumas, fille du célèbre romancier. Des manuscrits d'Alexandre Dumas ainsi que quelques objets personnels dont notamment le bureau sur lequel Dumas avait écrit 160 vers de son adaptation inédite de Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais il s'agirait d'un autre chapitre de l'histoire. Pour plus d'informations sur l'exposition La Française des collections artistiques qui se tient au château de Prague jusqu'au 23 février, vous pouvez consulter le site web www.franzowskirock.cz.
Voilà, cette émission s'achève avec l'exposition « L'art français des collections aristocratiques » que vous a proposé Yaroslava Gisubelova. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.